Internet et liberté avec Adrienne Charmé-Alix.
Alors bonjour à tous, vous m'entendez correctement, ça va? Ouais, ok. Alors j'ai pris un titre assez générique pour mon intervention aujourd'hui. L'idée étant d'essayer de vous parler un petit peu d'Internet, de liberté sur Internet et de liberté tout court. Et surtout des raisons pour lesquelles aujourd'hui il est absolument fondamental de s'occuper des droits fondamentaux, des libertés dans l'espace numérique. Alors je vais essayer de parler pas trop longtemps pour pouvoir laisser de la place à des questions que j'espère nombreuses. Et je vais procéder en trois petites parties. La première, c'est poser un peu le sujet et poser un petit peu auprès de vous qui ne connaissez pas forcément l'association La Quadrature du Net, les raisons, ce qu'on fait, les raisons pour lesquelles on est aujourd'hui très actif sur la question des libertés sur Internet. En deuxième point, faire un petit panorama de l'actualité, enfin en gros depuis un an, de la question des droits fondamentaux et des libertés sur Internet en France. À La Quadrature du Net, on travaille à la fois sur le versant européen et le versant français, mais je vais me concentrer sur la question de la France. Et le troisième point qui, j'espère, ouvrira un peu sur les questions, traitera en gros de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de préserver et sécuriser les droits fondamentaux dans l'espace numérique. Et puis ensuite, je vous laisserai libre de réagir ou de poser des questions, soit par rapport à ce dont j'ai parlé, soit s'il y a d'autres sujets concernant Internet et les libertés qui vous semblent pas avoir été traités ou que vous avez envie de traiter, vous pourrez les aborder. Alors pour commencer un peu, présenter un peu la Quadrature du Net, c'est une association qui existe depuis 2008, qui a été fondée au moment du vote de la loi Hadopi en France. Donc vote de cette loi qui avait pour objectif de réprimer le partage, ou le piratage, ça dépend comment vous voulez l'appeler, d'œuvres culturelles sur Internet, et qui a mis un peu en évidence la grande incompréhension qu'il pouvait y avoir entre la volonté du législateur, des parlementaires, du gouvernement de poser des lois qui régulent Internet un petit peu comme pour faire rentrer Internet dans le monde pré-Internet, de dire voilà, ça ne doit pas changer, on ne se préoccupe pas particulièrement des usages, mais on veut rester dans les mêmes modèles qu'autrefois. Et puis, des utilisateurs d'Internet plus ou moins éclairés, plus ou moins jeunes, vieux, etc. C'est pas qu'une affaire de jeunes, qui se sont préoccupés de faire mieux comprendre les usages et les technologies et d'essayer d'aider, de sensibiliser à la fois le monde politique et les citoyens sur la question des usages sur Internet. Et puis, donc c'est une association qui a été fondée par plusieurs personnes qui avaient toutes un bagage important, soit en droit, soit dans la connaissance technologique d'Internet, ou les deux, et la connaissance des usages aussi. C'est des gens qui, pour beaucoup, avaient déjà été actifs dans les précédentes étapes de régulation législative d'Internet et qui, là, se sont regroupés en se disant pourquoi est-ce qu'on montrait pas un collectif. Au début, c'était un collectif, c'est devenu une association plus tard, pour avoir un vrai travail d'accompagnement des politiques et des citoyens vers les politiques, de faire en sorte que quand on a une loi qui concerne Internet qui est votée, les citoyens puissent se prendre en main, comprendre de quoi il s'agit et aller parler à leurs représentants pour leur expliquer comment ça fonctionne et faire en sorte que les lois soient les meilleures possibles. Et puis petit à petit, ce travail de sensibilisation politique et citoyenne, il s'est élargi donc au niveau français, au niveau européen, sur trois grands thèmes. Donc le premier, c'est cette question des usages, du partage du partage d'œuvres, du partage de culture, du partage de fichiers, du partage de la connaissance sur Internet, qui va de pair avec une réflexion qui se développe beaucoup sur la réforme du droit d'auteur. Le fait de considérer Internet comme un bien commun et en ce sens d'essayer de le préserver et d'en faire un lieu d'exercice du bien commun. Deuxième point important, c'est la question de l'infrastructure et des réseaux. La Quadrature du Net s'est beaucoup investie dans les questions de neutralité du net, qui ne sont pas vraiment les questions que je vais aborder aujourd'hui, mais qui ont été, je crois, déjà abordées à des conférences précédentes, d'années précédentes ici. Donc essayer de faire en sorte que le réseau en lui-même, l'architecture, la manière dont on va faire circuler l'information et la manière dont on va réguler et gouverner Internet soit respectueuse de son aspect commun et soit respectueuse des droits et des libertés de chacun. Et puis le troisième point, qui est celui sur lequel je vais me focaliser aujourd'hui, qui est la question des droits fondamentaux dans l'espace numérique. On a aujourd'hui des enjeux importants en termes de vie privée, de liberté d'expression, de droit à l'information, de surveillance, de censure, etc., qui se passe beaucoup sur Internet. Et donc la Quadrature du Net, petit à petit, s'est forgée à la fois une expertise et une action assez forte sur ces thématiques-là. Alors l'organisation en elle-même, elle est assez souple. Ça fonctionne avec un conseil d'administration qui est un conseil d'orientation stratégique qui va un petit peu décider sur quelles thématiques on travaille quelles sont les idées qu'on va porter. On travaille, qui est accompagné par une équipe salariée dont je fais partie, qui a surtout une action de coordination, coordination d'analyse juridique, coordination de création d'outils pour les citoyens pour pouvoir prendre la parole et s'exprimer sur Internet, et puis coordination de campagne politique, de campagne citoyenne, de campagne auprès des médias aussi, pour nous permettre de faire remonter nos actions. On travaille aussi avec beaucoup de bénévoles, donc c'est pour ça que je parle de coordination, c'est que la coordination, elle se fait entre les salariés et les bénévoles, des bénévoles qui sont engagés de manière plus ou moins forte, c'est très très souple comme organisation, soit pour participer simplement à une action ou à deux actions, soit à s'engager de manière beaucoup plus lourde dans le fonctionnement quotidien de l'association, dans l'analyse juridique, dans le développement d'outils, dans la participation aux campagnes, dans la participation à des ateliers, à des stands, à des conférences, etc. Voilà un peu pour la présentation de base. Maintenant, essayez de vous expliquer un peu pourquoi aujourd'hui, en France, mais au niveau mondial, Internet est devenu un enjeu majeur pour les libertés fondamentales. Aujourd'hui, on a très fortement recentré nos activités à la Quadrature du Net sur la question de la défense des droits fondamentaux en France, via les outils numériques. Alors on pourrait un peu s'étonner en disant mais on n'est pas dans une dictature, on vit pas dans un pays où l'exercice quotidien des droits fondamentaux est menacé. En réalité, on a depuis 2 ans, 3 ans en France une succession de législations qui passent en général sans beaucoup de contestations, qui passent en transcendant complètement les divergences politiques traditionnelles, c'est-à-dire c'est des lois qui vont passer avec une opposition déterminée mais minoritaire dans tous les partis politiques, de gauche comme de droite, et une majorité pour ces lois qui transcendent aussi les partis politiques. Ce sont des lois qui touchent assez peu les citoyens, où les citoyens ont l'impression que ça ne les concerne pas. Et pour autant, on est en train petit à petit de construire une législation dans le domaine de la sécurité, de la surveillance, des lois de police et de la justice, qui est vraiment inquiétante du point de vue des droits fondamentaux. Et pourquoi est-ce qu'on s'en occupe à la Quadrature du Net ? Parce que cette mise sous pression des droits fondamentaux se fait essentiellement, majoritairement, sur la question d'Internet. Ça s'est fait au travers de plusieurs lois que je vais pas forcément détaillé totalement, mais juste vous expliquer un petit peu les enjeux de chacune. La première grosse loi qu'on a vue arriver sur cette question-là en France, c'est une loi dont vous avez peut-être jamais entendu parler, qui est la loi de programmation militaire, qui a été votée à la fin 2013, et qui, à la fin 2013, c'est 6 mois après les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de masse, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Cette loi, elle donne dans un de ses articles, donc c'est grosso modo une loi budgétaire, une loi d'extension des moyens pour l'armée, pour les services de renseignement, pour la gendarmerie, etc. Et puis dans un de ses articles, on a une autorisation pour les services de renseignement d'accéder en temps réel aux données de connexion chez les opérateurs Internet. Ça paraît complètement anodin, sur le coup, il n'y a pas grand monde qui s'est rendu compte de quoi il s'agissait, mais en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement grave dans l'atteinte à la vie privée de l'ensemble des citoyens. Alors, je vous explique pourquoi. Je vais peut-être expliquer très rapidement ce qu'est ce que regroupe le terme données de connexion, parce que c'est un enjeu majeur dans ce dont je vais vous parler. Les données de connexion, c'est toutes les traces qu'on va laisser de soi et derrière soi quand on navigue sur Internet. Par exemple, c'est l'adresse IP de votre ordinateur, c'est la date l'heure à laquelle vous vous connectez sur un site ou sur un autre, c'est la localisation physique de votre ordinateur, de votre téléphone mobile, etc., ou de votre GPS. C'est la taille des messages que vous échangez. Ce sont les adresses des gens avec qui vous allez échanger. Ce sont les noms, les en-têtes de vos messages. Ce sont l'historique de vos recherches sur Internet. Enfin bref, on a dans ces données de connexion et ces métadonnées un ensemble d'informations extrêmement précis sur ce que vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes, avec qui vous correspondez, qui sont vos amis, ce qui vous intéresse, quels sont vos centres d'intérêt, là où vous voulez partir en vacances, si vous vous sentez malade ou pas malade, si vous êtes d'une religion ou d'une autre, et quelles sont vos opinions politiques. Enfin, on pourrait aller comme ça très très loin. Mais on a dans ces données de connexion et dans ces métadonnées, c'est pas tout à fait la même chose les deux, mais je vais les regrouper globalement, on a dans ces informations un portrait de chacun d'entre nous qui est probablement plus précis que ce que nous-mêmes nous savons de nous. C'est-à-dire qu'on a tendance, nous, à oublier ce qu'on est allé chercher sur Internet. On ne se rend pas forcément compte de l'ensemble des mots qu'on va taper dans un carnet dans un moteur de recherche. On ne se rend pas forcément compte de l'intensité des relations qu'on a avec telle ou telle personne dans notre réseau. Est-ce que vous êtes capable de dire avec qui vous échangez le plus de SMS ou avec qui vous envoyez le plus de mails? Vous ne le savez probablement pas. Vous ne savez pas forcément si les gens avec qui vous échangez des SMS s'échangent aussi des SMS entre eux ou pas. Ça, vous ne le savez pas. Mais un examen de vos données de connexion le sait et est capable de le dire, est capable de retracer le graphe social, qui vous êtes et ce qui vous intéresse. Donc, à pouvoir accéder pour des services de police, de justice ou de renseignement à ces informations-là, c'est absolument... C'est une prise de connaissance sur vous-même et sur votre vie privée qui est absolument majeure. Et donc, autoriser les services à pouvoir accéder en temps réel à une partie de ces données pour pouvoir lutter contre le crime organisé, pour pouvoir lutter contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la France. Les intérêts fondamentaux de la France, c'est très large, hein. C'est les intérêts économiques, scientifiques, industriels. C'est ça peut être extrêmement large. Donner cet accès, c'est faire passer notre navigation sur Internet dans un régime de surveillance potentielle qui est assez lourde. Alors, dans cette loi de programmation militaire, on était encore que sur l'accès à des données de connexion de personnes ciblées. Ça veut dire qu'on dit « je veux accéder à toutes les données de telle personne ». C'est déjà grave que ce soit fait sans autorisation judiciaire, mais ça restait encore relativement ciblé. On est passé à partir de 2014 à la vitesse supérieure sur ces lois-là via deux lois. La première qui est la loi antiterroriste de la fin 2014, donc pareil, une loi dont on a assez peu entendu parler finalement, qui a été votée dans un relatif consensus politique, un consensus sous la pression du risque terroriste et puis aussi un consensus parce que beaucoup de parlementaires ne comprennent pas réellement de quoi il s'agit quand on vote ce type de loi. Cette loi antiterroriste, elle a des conséquences assez lourdes, toujours sur cette question des accès de la surveillance, en gros, des activités sur Internet. Elle a fait rentrer par un certain type de mesures vers... On est dans un démarrage du délit d'intention, c'est-à-dire que dans un des articles de la loi, le fait, par exemple, de consulter certains sites Internet considérés comme terroristes ou faisant l'apologie du terrorisme est en soi une incrimination pour décider que vous êtes terroriste. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir commis un acte de terrorisme ou d'avoir préparé activement un acte de terrorisme, mais, entre autres... Il y a une sorte de liste, en gros, de choses suspectes. Par exemple, posséder chez soi des produits explosifs. Mais ces produits explosifs, c'est hyper large. Vous avez du chlorate chez vous, c'est de l'explosif. Avoir appris à piloter des avions ou des bateaux. Avoir consulté des sites Internet faisant l'apologie du terrorisme. En gros, si vous cochez plusieurs items de ce genre de liste, on peut vous incriminer, on peut vous mettre en examen pour une entreprise individuelle terroriste sans que vous n'ayez de près ou de loin commencé à préparer un acte terroriste. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un changement aussi assez important dans la législation française qui fait de la surveillance sur Internet une méthode d'incrimination pour des crimes qui ne sont pas encore commis. Autre point important dans la question des libertés, on a sorti les questions d'apologie du terrorisme du code du droit général de la liberté d'expression pour les placer dans le code pénal. Alors, comme ça, on se demande un petit peu ce que ça peut avoir de liberticide ou en quoi ça peut être un problème. Ça veut dire concrètement que vous allez avoir des peines alourdies, que vous passez en comparution immédiate, etc. Le fait de faire l'apologie du terrorisme sur Internet est également davantage puni que si c'est fait à la télévision, à la radio, dans la rue, dans un bus ou ailleurs. C'est-à-dire que le fait même d'utiliser l'outil Internet devient une circonstance aggravante dans le crime que vous êtes en train de commettre. Comme si le fait de s'exprimer sur Internet vous faisait toucher immédiatement 1 milliard de personnes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous pouvez effectivement toucher plus de monde, mais vous pouvez aussi écrire des choses affreuses sur un blog lu par 3 personnes. Et en général, c'est quand même ça qui se passe. Et le fait d'avoir fait de l'apologie du terrorisme sur Internet ne pose pas de problème, pas plus de problème en soi que c'était fait ailleurs. Mais on a cette condamnation d'Internet en tant que telle et de l'expression sur Internet en tant que telle. Cette loi, elle a aussi autorisé des capacités d'intrusion dans les systèmes informatiques plus rapides et plus larges qu'avant pour les services de police. Et ça, je vais le relier à ce qui se passe en ce moment avec l'état d'urgence, mais on a aussi passé un cap dans la capacité pour les services de police de pouvoir accéder à des ordinateurs à distance, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin physiquement d'accéder à votre ordinateur pour pouvoir aller saisir les données qui sont dedans. Troisième loi importante, la loi sur le renseignement, qui, elle, a fait un petit peu plus de bruit, mais encore pas suffisamment au printemps de l'année dernière, et qui est en gros la loi qui, aujourd'hui, organise l'ensemble des activités des services de renseignement à l'intérieur et à l'extérieur, et qui était attendue depuis très longtemps parce que les services de renseignement fonctionnent très largement dans l'illégalité. Alors, ils continueront à fonctionner dans l'illégalité pour un certain nombre de choses après cette loi, mais elle a quand même légalisé beaucoup de pratiques qui auparavant étaient pratiquées mais pas légales. C'est d'ailleurs le principe de cette loi, c'est-à-dire qu'elle a massivement légalisé des pratiques illégal, c'est assez cocasse quand on y pense, hein, mais les services de renseignement faisaient des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Ça commençait à devenir un petit peu dangereux parce que la France risquait de se prendre des condamnations, notamment au niveau européen. Eh bien, la réponse du gouvernement, ça a été de légaliser ces pratiques illégales. Je vous laisse imaginer ça pour d'autres sujets, ça peut être intéressant. Que fait cette loi sur le renseignement ? Elle autorise le renseignement pour des finalités extrêmement larges. Qui sont bien au-delà de la lutte contre le terrorisme. On a à nouveau toute la question des intérêts économiques, scientifiques, industriels de la France. C'est-à-dire qu'on peut vous espionner parce qu'on considère que vous portez atteinte à certains intérêts économiques, industriels ou scientifiques. Je pense que dans un salon comme celui-ci, qui est extrêmement tourné vers les questions d'écologie, ça doit vous faire réagir. Quand on voit par exemple en Inde, une association comme Greenpeace a été... je crois pendant un temps seulement, mais à vérifier, interdite, parce qu'elle était considérée comme portant atteinte aux intérêts économiques de l'Inde. Aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre d'actions contre des lignes de TGV, contre des implantations d'aéroports ou contre ce genre de choses pourraient tomber sous le coup de l'entrave aux intérêts économiques de la France. On a aussi dans les champs d'action du renseignement tout ce qui est la protection des institutions. Et là encore, c'est une manière, rentre dans ce champ des services de renseignement toute la mouvance politique radicale alternative qui peut être considérée comme refusant les institutions républicaines ou refusant le gouvernement actuel. Donc ça, on est dans ces champs du renseignement. En fait, à partir du moment où vous êtes plus ou moins engagé politiquement ou engagé dans la société de manière contestataire, si on veut vous incriminer, on vous incriminera. Ça justifie à peu près tout et n'importe quoi. Outre ces finalités très larges, on a des techniques de renseignement très larges aussi qui peuvent être utilisées. Certaines qui sont des techniques de surveillance ciblée. La capacité de pouvoir aller mettre des micros sous votre voiture, des caméras dans votre appartement, dans votre cage d'escalier, de pouvoir géolocaliser vos moyens de transport pour pouvoir vous géolocaliser en permanence, de pouvoir aller installer sur le clavier de votre ordinateur un logiciel qui va saisir tout ce que vous êtes en train de taper sur votre ordinateur. Ça, c'est des techniques qui ont été autorisées. Ces techniques de surveillance ciblée, elles sont faites sans contrôle d'un juge, hein, puisqu'on est dans le domaine du renseignement, donc avant toute action judiciaire. Elles sont faites avec extrêmement peu de contrôle. On a une commission de contrôle qui est censée donner des autorisations, mais en fait, son avis est facultatif. Aujourd'hui, on a appris dans les mois qui ont suivi les attentats du 13 novembre qu'elle est dans l'incapacité la plus totale de traiter l'afflux de demandes des services de renseignement. Donc, elle prend des décisions de mise sous surveillance, des décisions collectives. On lui dit on veut mettre sous surveillance toute cette liste de gens, et elle donne son avis de manière sur des listes collectives. Elle est incapable, elle n'a absolument pas le temps de faire un contrôle a posteriori du renseignement qui a été collecté, alors que ça rentre dans son champ d'action. C'est son patron lui-même qui l'a dit lors d'une audition au Sénat. Ils sont aujourd'hui absolument dans l'incapacité de contrôler efficacement les services de renseignement. On a aussi une surveillance beaucoup plus massive qui a été légalisée, avec une logique de détection de la menace dans la masse de la population. C'est exactement les logiques qui ont été faites aux États-Unis après le 11 septembre 2001 et qui n'ont eu absolument aucune efficacité, mais on les a quand même reprises en France. Dans cette surveillance de masse, on a deux grands points. On a la surveillance ou la collecte massive de données sur un point en particulier. Par exemple, on cherche à savoir avec qui quelqu'un qu'on estime dangereux est en train de communiquer. On sait qu'il passe tous les jours par telle gare, par exemple. On va poser des dispositifs pour collecter l'intégralité des données des téléphones portables pendant un temps donné sur ce lieu, cette gare, cette place, cet immeuble, ce quartier, etc., pour pouvoir ensuite établir les connexions entre les gens et pouvoir aller ratisser comme ça dans la masse toutes les personnes qui sont en connexion avec l'individu X ou Y. Mais ça veut dire que toutes les personnes, vous et moi, qui passons par ce même endroit, toutes nos données personnelles qui sont contenues dans nos téléphones portables sont aspirées en même temps, et elles peuvent... On est dans l'incapacité de savoir ce qui en est fait derrière. Ça, c'est de la surveillance, de la collecte massive sur un point donné pendant un temps donné. C'est des autorisations qui peuvent durer plusieurs jours ou qui peuvent être renouvelées plusieurs fois. Et puis, la dernière logique que je vais vous exposer, c'est la logique de détection algorithmique du danger. Ça, c'est probablement ce qui est le plus... impressionnant et le plus inquiétant dans cette nouvelle doctrine des services de renseignement français, c'est de se dire on va poser au cœur du réseau Internet des dispositifs qui vont être capables de détecter des comportements dangereux, déviants, selon un modèle, on va dire, voilà, les gens qui, majoritairement, les gens qui ont des contacts avec tel type de pays, les gens qui ont tel type de pratiques sur Internet, les gens qui utilisent tel type d'outils sur Internet, on peut considérer qu'ils sont dans une logique, dans un comportement qu'on a déjà vu chez des personnes dangereuses, donc on va plus spécifiquement suivre ces personnes-là et détecter ces personnes-là parce qu'elles sont considérées comme dangereuses. Ça veut dire que toutes les communications de l'ensemble des internautes français doivent être surveiller pour permettre de détecter au milieu de ces communications celles qui vont être considérées comme dangereuses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on a une surveillance massive, généralisée, qui va être pratiquée. Ces boîtiers, a priori, ne sont pas encore en service. Enfin bon, aujourd'hui, vos communications, les miennes, dont vous ne savez pas ce qui dedans peut être considéré comme dangereux, vont être analysés par les services de renseignement. Alors, eux considèrent qu'à partir du moment où on n'a pas décidé de vous cibler précisément après cette collecte et cette analyse algorithmique, ce n'est pas de la surveillance. Nous considérons qu'à partir du moment où toutes les communications des individus sont collectées pour être analysées, on est dans une logique de surveillance. Et ce qui est intéressant, c'est que on a décidé avec d'autres associations d'attaquer systématiquement les décrets d'application de cette loi, et on a une jurisprudence européenne qui dit la même chose que nous, qui dit à partir du moment où tout citoyen est potentiellement sous une surveillance qui n'est pas précisément ciblée, qui n'est pas faite pour aller chercher une information en particulier avec une finalité, avec une proportionnalité, avec un contrôle, on est dans de la surveillance de masse et c'est contraire aux droits de l'homme. Donc on va voir dans cette guerre juridique qu'on va mener contre l'État français si la jurisprudence européenne va jouer et va nous donner raison ou pas. Mais on est aujourd'hui en France dans une logique de surveillance de plus en plus massive avec l'espoir de pouvoir arrêter les personnes dangereuses. Et puis, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, après les attentats du 13 novembre, on s'est retrouvé avec encore un cran au-dessus dans l'atteinte aux libertés, qui est la déclaration de l'état d'urgence. Il y a eu une sorte d'unanimité nationale sur la déclaration de l'état d'urgence. Moi, je ne me permettrais pas de juger si le fait de dire qu'il fallait déclencher l'état d'urgence pour quelques jours était nécessaire ou pas. Je pense que j'en ai pas les compétences et la connaissance. En revanche, on est passé directement d'un état d'urgence de 12 jours, qui est quand même une mesure lourde, où on va suspendre une partie des prérogatives de la justice, où on va rentrer dans une logique où la police est capable de directement porter atteinte à la vie des gens sans que la justice n'ait son mot à dire. On est passé directement de la déclaration de l'état d'urgence à l'extension de l'état d'urgence, directement. Du jour au lendemain, l'état d'urgence a été déclaré le 13 novembre au soir, le 14 novembre, Manuel Valls dit déjà « on va l'étendre pour 3 mois ». Et non seulement on l'étend dans sa durée, mais on l'étend dans son périmètre aussi. Et dans le périmètre d'extension de l'état d'urgence, on a à nouveau des mesures qui vont concerner lourdement la question d'Internet. Et notamment, dans cette loi qui a été votée le 20 novembre à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a eu 6 députés qui ont voté contre seulement et aucun sénateur, on a... Une base juridique pour pouvoir perquisitionner et assigner à résidence des gens massivement sur, non pas sur des preuves ou non pas sur des éléments judiciaires, mais sur des éléments qui sont tirés du renseignement. Et notamment sur quelque chose qui s'appelle les notes blanches, qui est une pratique où en gros les services de renseignement écrivent sur une feuille pas signée, sans preuve, sans rien du tout, ce qu'ils pensent d'une personne, et puis ça va servir à l'incriminer. Eh bien, ces perquisitions, ces assignations à résidence, elles sont faites majoritairement sur la base d'une surveillance qui est exercée en ligne. Avec qui cette personne communique, qu'est-ce qu'elle va voir comme site internet, etc. Et on a, lors des perquisitions et lors des assignations à résidence, une saisie, enfin une copie systématique de l'intégralité des ordinateurs et des téléphones portables des gens qui sont perquisitionnés. Alors aujourd'hui, ça n'est plus possible parce que le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition. Donc là, pour les 3 mois supplémentaires de l'état d'urgence, en théorie, ils sont plus censés venir copier intégralement les ordinateurs. Mais on a même pour des gens envers lesquels il n'y aura aucune action judiciaire derrière, on a une copie totale des ordinateurs qui a été faite pendant 3 mois là, sur à peu près 4000 personnes en France, donc 4000 familles qui ont toute leur vie privée conservée dans leurs ordinateurs. Quand on voit un petit peu les profils des gens, les erreurs qu'il y a pu y avoir, les suspensions d'assignation à résidence parce qu'on se rend compte qu'il n'y avait rien du tout de probant, on se demande vraiment ce qui est fait, l'utilisation qui est faite de ces données qui sont copiées, l'atteinte à la vie privée de ces personnes qui a été faite, et c'est quelque chose de très dangereux, sachant qu'une fois encore, on n'est pas, dans le cadre de l'état d'urgence, uniquement focalisé sur le terrorisme, mais sur l'ensemble de ce qui peut être considéré comme faisant porter un risque sur la sécurité nationale, et on l'a bien vu pendant la COP21, puisqu'on a vu des militants écologistes se faire perquisitionner, assignés à résidence, alors qu'ils n'avaient strictement aucun... ils ne sont pas des gens qui... ce sont pas des terroristes, quoi. Je vous demanderai de faire attention aussi à la nouvelle loi contre la criminalité organisée et à nouveau une loi de lutte contre le terrorisme qui arrive à l'Assemblée nationale la semaine prochaine et qui en fait est en train d'installer dans la loi ordinaire ce type de mesure de l'état d'urgence, c'est-à-dire cette capacité à aller perquisitionner de jour, de nuit, saisir les ordinateurs, saisir les données qui sont dedans, etc. Alors je vais terminer mon petit point avant de passer aux questions, en essayant de réfléchir un petit peu après avoir exposé ce type de mesures, sur pourquoi est-ce qu'on doit refuser ça. La réponse principale qu'on me donne quand j'expose ces législations, c'est « mais moi je suis pas concernée, je ne suis pas un danger, je ne suis un danger pour personne, de toute façon j'ai rien à me reprocher, de toute façon je n'intéresse pas les services de renseignement, de toute façon Google sait déjà tout de moi, alors pourquoi pas d'autres ?» Voilà, pourquoi est-ce que on doit se préoccuper de cette question-là, y compris quand on a l'impression qu'Internet n'occupe pas une place fondamentale dans notre vie. Alors, pour moi, c'est important parce qu'on est dans le domaine d'une surveillance invisible. Si vous aviez quelqu'un qui vous suivait en permanence dans la rue et qui notait tous les gens avec qui vous parliez et tout ce que vous allez acheter dans les magasins, etc., ça vous perturberait. Vous poseriez des questions en disant « mais qu'est-ce qu'il me veut ? Pourquoi est-ce qu'il me suit moi ?» etc. Sur Internet, on ne voit pas cette surveillance. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une totale sécurité, et on est dans une relative sécurité, et on ne se rend pas compte des traces qu'on laisse de soi. Et ça, c'est la première prise de conscience, elle est là, de se dire ce que je fais sur Internet n'est pas anecdotique. Aujourd'hui, quand je veux parler à quelqu'un, quand je veux m'exprimer, quand je veux m'informer, quand je veux acheter, quand je veux réfléchir à où je vais me déplacer, eh bien, tous, on le fait majoritairement sur Internet. Ça veut dire qu'on laisse de nous énormément d'informations. Ça, c'est le premier constat. Et ce constat ne doit pas non plus amener à un retrait de la vie numérique. C'est pas parce que tout d'un coup on prend conscience de tout ce qu'on laisse de soi sur Internet qu'il faut se dire « Ok, j'arrête tout, je repars, je referme Internet, c'est pas pour moi. » Mais il faut avoir conscience de ça. La deuxième chose qui me semble importante dans un pays comme la France, où on a une grande tradition, c'est le pays des droits de l'homme, etc. On est attaché à la séparation des pouvoirs, on a un système judiciaire qui est très présent, on a un système policier qui est présent, une armée, etc. De se dire, c'est pas parce que je vis dans une démocratie qui est une démocratie installée, établie, etc., que je n'ai pas de soucis à me faire. On a aujourd'hui, y compris dans des vieilles démocraties, des pratiques qui se mettent, qui sont votées, des lois qui sont votées, des pratiques qui se font, qui sont tout sauf démocratiques, et il faut avoir la lucidité de le voir. Ces législations, par exemple, elles passent beaucoup plus mal dans des pays comme l'Allemagne, comme la Pologne, comme la Russie, parce que c'est des pays qui ont un souvenir de régimes autoritaires, de régimes qui les ont surveillés, et c'est des pays qui font beaucoup plus attention à ce type de questions-là. Nous, on s'est installés dans un certain confort, on considère que les choses sont acquises, et on se préoccupe pas assez de cette question des droits fondamentaux. Quand on voit une association comme Amnesty International, par exemple, commencer à faire des campagnes sur les questions de liberté de surveillance en France, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. D'habitude, ils s'occupent pas trop de ce genre de régime. Ben, maintenant, on en est là aussi, et c'est pas du fantasme, c'est vraiment de la réalité. Troisième point, troisième raison pour laquelle il faut s'occuper vraiment de ces questions-là, c'est qu'aujourd'hui, le système politique est en train de faire évoluer ses lois vers toujours moins de contrôle judiciaire, toujours plus de pouvoir vers l'exécutif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ou alors on en reparlera tout à l'heure, mais on a globalement une évolution législative qui va, sous prétexte que la justice est trop lente, qu'il n'y a pas assez de moyens, etc., faire massivement porter le pouvoir sur l'exécutif et non plus sur le judiciaire. Et ça, c'est très dangereux pour la séparation des pouvoirs, sous prétexte d'efficacité, sous prétexte de remonter toujours plus haut avant que le crime soit commis. S'en occuper aussi parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de réflexion politique de fond sur ces questions-là. C'est un sujet qui n'a pas encore assez touché la classe politique dans son ensemble, les représentants locaux, nationaux, les parlementaires, le gouvernement, mais aussi toutes les assemblées locales. On a globalement des parlementaires qui nous disent « Mais écoutez, moi, personne ne vient me parler de la question des libertés et de la question d'Internet dans ma permanence, donc je ne vois pas pourquoi je m'en occuperai. » On a, à l'Assemblée nationale et au Sénat, 4-5 députés, 4-5 sénateurs qui sont à peu près au courant, qui comprennent, qui écoutent, qui sont aussi capables de dire « Ben, je ne connais pas tout, expliquez-moi comment ça fonctionne et après je vais me faire mon idée politique dessus. » Et ça, on a besoin de faire monter cette pression qui n'est pas une pression agressive, mais qui est une interpellation de nos représentants qui sont quand même censés nous représenter pour leur dire « Écoutez, moi je ne veux pas que vous votiez ce type de loi en mon nom. Je ne veux pas que vous cédiez à cette angoisse et à cette hystérie à propos du terrorisme. Je veux que vous preniez le temps de comprendre, d'apprendre et de prendre des décisions éclairées. La question des libertés dans l'espace numérique doit devenir un vrai enjeu politique. Aujourd'hui, on ne parle du numérique dans le politique soit pour taper sur Internet, soit pour dire sur des questions économiques. Mais sur la question des libertés, ça ne l'est pas encore. Et puis aussi, parce que aujourd'hui, Internet, enfin c'est même surtout parce qu'Internet est vraiment le lieu majeur d'exercice de nos libertés, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais globalement, sur les questions notamment de droit à l'information et de liberté d'expression, il faut se rendre compte que ces droits qui ont été théorisés il y a 200 ans, n'ont été en pratique exercée jusqu'à l'arrivée de l'Internet grand public que par une certaine élite. Une élite intellectuelle, professorale, politique, les gens qui avaient accès, les journalistes, les gens qui avaient accès aux médias ou à la publication pour pouvoir ensuite parler au reste de la population. C'est majoritairement Internet qui a permis, et Internet dans sa version sociale, on va dire, où les internautes ont la capacité de mettre en ligne des contenus, de s'exprimer, de donner leur opinion, de critiquer, de dire des bêtises, de dire des trucs intelligents, c'est Internet qui a massivement fait exercer certains de nos droits fondamentaux essentiel par l'ensemble de la population. Donc aujourd'hui, il y a la vie privée qui est majoritairement en ligne, enfin votre vie privée est majoritairement exposée en ligne, vos droits fondamentaux sont exercés beaucoup en ligne par tout le monde, votre compte Facebook, c'est triste à dire, mais votre compte Facebook est un outil de liberté d'expression, votre blog, vos mails, je pourrais parler du problème de ces grandes entreprises comme Facebook, Google, etc., mais aujourd'hui je vais les prendre comme des outils de liberté. C'est par là que vous exercez votre liberté d'expression et votre droit à l'information. Donc, trois points pour terminer. Faire monter cette question des droits fondamentaux dans l'espace politique, ça me semble essentiel, ça peut être à discuter avec vous. Reconnaître Internet comme un bien commun et un lieu d'exercice des libertés, ça politiquement c'est quelque chose d'important, et dans les usages et dans vos pratiques aussi, être capable de faire vos choix en fonction de cette pensée-là, de se dire Internet c'est devenu un outil fondamental pour plein de choses, donc je vais le protéger et je vais faire en sorte qu'il ne soit pas altéré par des législations qui auraient un impact trop lourd sur son fonctionnement. Et puis se protéger, décentraliser un petit peu ses communications, ne pas tout confier à un seul acteur sur lequel on peut plus facilement faire peser une surveillance. Je vous renverrai vers les différents stands qui sont un petit peu par là-bas, de tout un tas d'associations qui font la promotion d'un Internet libre, ouvert, décentralisé, où c'est vous qui maîtrisez ce que vous faites. Il y a vraiment beaucoup de pratiques à changer pour chacun d'entre nous. Voilà, ça me semble important. Et puis, choisir des outils sur Internet qui vous respectent et qui ne sont pas contrôlés ni par des trop grosses entreprises ni par des États. Et puis, interpeller vos politiques sur ces questions-là pour ne pas les laisser dans l'ignorance ou dans la méconnaissance d'Internet. Voilà un petit peu pour commencer. Et donc, du coup, je vous laisse poser des questions maintenant.
Il y a eu le cas assez incroyable de ce prof de l'université d'Avignon d'anthropologie antique, et dans Valls allait venir à l'université, et dans un courrier interne à la fac, pour plaisanter, il mettait « il faut qu'on s'arrange pour qu'il n'y ait pas trop d'étudiants basanés et qu'il y ait suffisamment de blancos pour se moquer de Valls ». Et le président a fait semblant de prendre au sérieux, d'ignorer l'ironie, a communiqué à Valls l'information, lequel a dû le sommer de mettre le prof en justice. Et il y a eu une telle protestation que, bon, il a été innocenté, c'était trop gros, mais... C'est à peine croyable, d'autant qu'on fait semblant, en haut lieu, de sacraliser l'humour avec l'esprit Charlie et tout ça.
Je pense que c'est plus un exemple de la légère dérive autoritaire de Manuel Valls que de questions d'Internet. Mais ce qui est intéressant, c'est là-dedans, c'est la mobilisation en ligne. Il y a plusieurs choses en ce moment qui se passent, qui sont intéressantes, sur le fait que ce qui probablement autrefois se serait passé dans un vase clos, aujourd'hui ça a cette capacité de sortir et de finalement on peut défendre par exemple cette personne, ce prof, sa défense a été faite massivement en ligne, et ça je trouve ça intéressant effectivement, mais je suis pas sûre que ce soit un enjeu particulier de liberté sur Internet. Par contre ça s'est passé beaucoup sur Internet. Oui,
bonjour. Que penser du bras de fer qu'il y a entre Apple et puis l'État américain ?
Super intéressant. Je redis un petit peu l'histoire. On a en ce moment un bras de fer effectivement entre Apple et le FBI aux États-Unis parce que un terroriste américain qui a tué plusieurs, je crois 17 personnes il y a quelques mois, avait un iPhone et que son iPhone était complètement sécurisé. Ce qui fait que, enfin, comme beaucoup de téléphones, si vous tapez plus de 10 fois un mauvais code PIN, il se bloque intégralement. Et donc, le FBI, par une réquisition judiciaire, demande à Apple de développer un outil pour pouvoir ouvrir quand même ce téléphone malgré le fait qu'il soit bloqué. Alors ça, c'est vraiment un sujet intéressant parce que aujourd'hui, on a aux États-Unis ou en France des lois qui disent vous devez fournir les outils permettant de déchiffrer des données qui ont été chiffrées, protégées, sécurisées. En France, par exemple, on n'a pas besoin d'une réquisition judiciaire. On vous demande et vous êtes obligé de le faire. Et si vous refusez de le faire, vous pouvez être incriminé. Je vous raconterai après une histoire qui est en train de se passer en France qui est intéressante là-dessus. Dans le cas d'Apple, on lui demande pas « débrouillez-vous pour me déverrouiller cet iPhone ». On lui dit « faites-nous un logiciel qui va permettre d'ouvrir cet iPhone ». Et Apple dit « non, je ne le ferai pas, parce que si je fais ce logiciel, je n'ai aucune confiance dans le fait qu'il ne va pas être utilisé pour déverrouiller d'autres iPhones. Si je vous donne la clé pour passer au travers de ma sécurité, je n'ai aucune confiance dans le fait que vous n'allez pas l'utiliser pour autre chose. » Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance, le point essentiel, c'est pas que tout le monde est surveillé, ça tout le monde le sait. Le point essentiel, c'est que les services de renseignement ont utilisé les géants d'Internet, les ont forcés par le Patriot Act à donner un accès aux données qu'ils hébergeaient sur les individus qui utilisent leurs services. Ces entreprises, Apple, Google, Facebook, etc., au début, elles ont commencé à dire « c'est pas vrai », elles ont été obligées de reconnaître que c'était vrai, et elles ont perdu énormément de confiance de la part de leurs utilisateurs, pas suffisamment encore, puisqu'elles ont encore beaucoup trop de clients, mais elles ont globalement perdu la confiance de leurs utilisateurs sur la sécurisation de leurs données. Et donc aujourd'hui, depuis les révélations de Snowden, ces entreprises font tout pour regagner la confiance de leurs utilisateurs, notamment professionnels, et en disant « on chiffre nos données, personne n'y a accès à part vous », etc. Et bien là, elles se retrouvent dans la situation où elles sont obligées de tenir bon face au FBI, mais face aux autres aussi, en disant « je ne peux pas vous fournir les clés pour casser ma propre sécurité face à ces utilisateurs, c'est absolument pas viable comme position ». Et pour moi, cette affaire entre Apple et le FBI est probablement une affaire essentielle et cruciale aujourd'hui, parce qu'en gros... selon qui va gagner dans cette affaire, est-ce que Apple va être obligé de céder ou est-ce que le FBI va être obligé de céder, on va avoir deux modèles différents qui vont se dessiner. Dans le cas où Apple cède, ils ne le diront pas. Ils vont le faire sans rien dire, en disant « bon ben vous ne faites pas machin », mais on n'aura pas confiance, on n'aura plus confiance. Ça va être intéressant parce que ça veut dire peut-être que les gens vont se détourner de ces gros géants de l'Internet et utiliser des outils qu'ils maîtrisent mieux, des logiciels libres et ouverts, des outils dans lesquels ils pourront avoir un peu plus confiance. Dans le cas où le FBI cède et arrête de demander à Apple le développement de ce logiciel, peut-être qu'on va arriver dans un monde, dans un deuxième âge de la question de la surveillance sur Internet, qui serait un âge où les services de renseignement et de justice comprendront qu'ils ne peuvent pas tout avoir et comprendront qu'à un moment, y compris face à des crimes graves, y compris face au terrorisme, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, on est dans une sorte de moment où la surveillance électronique explose complètement parce qu'on a une sorte d'idée que puisqu'on peut le faire, il faut le faire. On va toujours pouvoir en savoir plus, on va toujours pouvoir accéder à plus de données. Donc allons-y, allons-y, allons-y. Typiquement, la surveillance algorithmique de la loi sur le renseignement française, ça a été voté, ça a été légalisé. Ils n'ont pas pour l'instant la moindre idée de comment ils vont le faire. Mais s'ils arrivent à le faire, on a une sorte de monitoring des cerveaux des gens complètement démentiel. Et ils n'arriveront à rien avec ça. on a de plus en plus, après les attentats de janvier et de novembre, de plus en plus d'informations, de plus en plus de réflexions disant cette surveillance de masse ne mène à rien. Il faut revenir et il faut faire remonter dans l'équilibre de la surveillance, la surveillance individuelle, l'analyse des réseaux, etc., etc. Donc, dans cette affaire entre Apple et le FBI, on a deux modèles qui s'affrontent. Pour la quadrature du net, par exemple, il est évident que Apple ne doit pas céder. On n'a pas beaucoup d'affection pour Apple, qui est quand même une entreprise avec un modèle économique totalement basé sur l'exploitation des données personnelles, etc. Mais on sait que dans cette affaire, il ne faut pas qu'il cède. Il faut que le FBI et les autres derrière aient conscience qu'on ne peut pas tout faire, accéder à tout, y compris pour la résolution de certains crimes. On ne va pas vous dire il faut découper votre cerveau parce qu'il faut absolument savoir ce qu'il y a dedans. Non, on sait qu'à un moment, on va s'arrêter. Eh bien, pour les outils, c'est pareil. On a besoin à un moment de pouvoir avoir une dernière poche d'intimité pour 99,9% de la population qui n'a strictement rien à se reprocher. Eh bien, il faut préserver cette poche d'intimité-là. Voilà.
Oui, excusez-moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans votre explication. Vous avez parlé en... Après novembre jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris, les services de renseignement pouvaient donc recueillir les données de tous les citoyens. Mais maintenant, ils peuvent plus parce que le Conseil constitutionnel l'a retoqué ou pas du tout ?
Alors, c'est pas tout à fait ça. Dans la loi du 20 novembre qui étend l'état d'urgence dans son périmètre et dans sa durée, il y a une mesure sur la perquisition informatique qui autorise les services de police, quand elles perquisitionnent en période d'état d'urgence, à copier les données des ordinateurs et des téléphones portables. Et en fait, cette disposition-là, elle a été attaquée par la Ligue des droits de l'homme devant le Conseil constitutionnel en disant on ne peut pas considérer que la copie des données d'un ordinateur est anodine. C'est la même chose que de saisir un ordinateur, puisque finalement, on copie tout ce qu'il y a dedans et on récupère tout ce qu'il y a dedans. Et donc, la Ligue des droits de l'homme a attaqué et a gagné devant le Conseil constitutionnel, qui considère effectivement que cette copie intégrale des données d'un ordinateur est une atteinte disproportionnée à la vie privée quand c'est fait sans contrôle d'un juge. Donc, là, comme vous le savez peut-être, on est reparti pour 3 mois d'état d'urgence depuis vendredi. Et peut-être que ça durera encore, on ne sait pas. Aujourd'hui, en théorie, j'espère qu'ils vont le respecter, les policiers qui viennent perquisitionner chez les gens en période d'état d'urgence n'ont pas le droit de copier les données d'un ordinateur s'ils n'ont pas l'autorisation, la même autorisation qu'une saisie judiciaire, en fait. C'est simplement ça, mais c'est important parce que c'est la première fois qu'on a, enfin, c'est la seule disposition de l'état d'urgence qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Et surtout, ça met en évidence que copier les données d'un individu est une atteinte extrêmement lourde à sa vie privée et à celle de son entourage, forcément.
Vous aviez une anecdote à raconter sur ce qui se passe en France. Vous avez oublié.
Merci. Heureusement, vous avez un cerveau plus frais que le mien. Oui, en ce moment, on a une affaire en France qui est intéressante, qui est en cours, donc je vais vous en dire ce que j'en sais simplement, où on a un lycéen de Dijon qui a développé un outil permettant de communiquer. Je ne vais pas rentrer dans des détails très précis, mais un outil permettant de communiquer de manière extrêmement sécurisée et anonyme. Et puis cet outil a été utilisé par des petits malins qui s'amusaient à faire des fausses alertes dans des lycées, notamment parisiens, dans les semaines qui viennent de se passer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a eu je ne sais pas combien de lycées qui ont été... ciblés. Et donc ce lycéen dijonnais, lui, il héberge ce système physiquement. Enfin, c'est lui qui l'a mis à disposition des gens sur Internet. Et là, il s'est fait convoquer par la police parce que quand la police a essayé de remonter, de retracer l'origine de ces alertes, de ces fausses alertes, elle est remontée sur son serveur. Et lui demande de déchiffrer, son serveur est sécurisé, est chiffré, lui demande de déchiffrer son serveur pour pouvoir identifier les personnes qui l'ont utilisé. Et là, c'est intéressant parce que on a, dans la loi, normalement, il doit le faire. Lui refuse de le faire. Donc, il est susceptible d'avoir de lourdes condamnations parce qu'il refuse de le faire. Mais lui avait développé un système sécurisé protecteur pour les gens qui l'utilisent, pour tous les gens qui l'utilisent. Il y a peut-être 4-5 personnes qui l'ont utilisé pour faire des mauvaises actions. Et on lui demande à lui de déchiffrer l'ensemble de son serveur pour donner accès à la police à son serveur. Alors que la police pourrait tout à fait choisir de lui dire « Donnez-nous les identifiants, les adresses IP des gens qui se sont connectés à telle heure pour faire tel type de communication. » Ça, c'est ce qui se fait traditionnellement dans les réquisitions judiciaires concernant Internet. Et bien là, c'est pas ça que la police lui demande. Elle lui demande la clé de déchiffrement de son serveur qui va donc donner accès à l'ensemble des utilisateurs du serveur. Et là, on voit vraiment le parallèle avec Apple est tout à fait parlant. C'est-à-dire que on demande pas à la personne qui est au milieu du problème d'aider à la résolution du problème, on lui demande de casser la sécurité de l'ensemble de son système pour laisser l'accès à la police. Et c'est là où il y a des choses, où il y a des enjeux très très forts en termes de liberté là-dessus.
Je pense. De façon beaucoup plus pratique, on voit venir le système d'exploitation Windows 10 dont on dit beaucoup de mal par rapport justement à la comment dirais-je au mouchardage que l'on peut constater. Pouvez-vous nous dire un certain nombre d'informations, de renseignements là-dessus par rapport au Windows 7 ou 8 par exemple? Et quels seraient les moyens, disons, de se protéger des inconvénients de ce système d'exploitation?
Alors, j'ai pas étudié en détail Windows 10. Windows est mauvais de toute façon. Pour ce qui concerne, il y en a qui rigolent dans la salle, mais Windows est mauvais de toute façon parce que, pour des questions globales de sécurité informatique, c'est pas un bon système d'exploitation. Et d'autre part, parce que Microsoft est une entreprise américaine qui est donc liée aux engagements en tant qu'entreprise américaine. Elle doit fournir aux autorités américaines à la demande. Elle est soumise au Patriot Act comme Apple, comme Facebook, etc. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Je crois que Windows 10 va très loin dans la remontée automatique d'informations. Et puis Windows vous installe des logiciels sans que vous ayez le choix de les refuser ou pas. Bref, il y a tout un tas de choses Si, vous avez pas l'air de me croire, mais quand vous faites, quand vous rallumez votre ordinateur et que Windows vous dit 3400 mises à jour en cours, vous savez absolument pas ce qu'il est en train de télécharger sur votre ordinateur et pourtant il le fait. Donc Windows, par principe, ça ne devrait pas être utilisé. Windows 10, encore moins. Quelles sont les alternatives? Il y a plein d'alternatives. Et dans les alternatives, il y a tout ce qui concerne le monde du logiciel libre, qui a été dans les temps passés parfois un petit peu difficile d'accès quand on n'a pas de connaissances informatiques, qui aujourd'hui est extrêmement simple et vous permet de faire exactement la même chose que ce que vous faites avec votre Windows 7 ou autre. Donc là encore, je vous invite à aller voir dans les stands du village numérique, etc., qui est par là-bas. Je pense que vous trouverez des gens qui vous aideront. Mais aujourd'hui, installer un système d'exploitation comme Ubuntu, par exemple, est extrêmement simple et accessible absolument à tout le monde. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'enlever Windows de votre ordinateur et d'installer Ubuntu, ce que vous pourrez faire très facilement. D'enlever Windows de votre ordinateur et d'installer un système comme Ubuntu, par exemple, qui est probablement le plus grand public des C'est Linux. Ubuntu, c'est Linux. Hein. C'est une distribution de Linux. Voilà. Mais cherchez un petit peu sur Internet. Vous trouverez, y compris à Lyon, je sais qu'il y a vraiment du monde pour aider là. Et il y a une bande juste derrière, à trois rangs derrière vous, qui vous aidera avec grand plaisir. Voilà. Je les vois depuis tout à l'heure. Voilà. Donc allez les voir après la conf.
Voilà. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Alors moi j'en ai une en tant qu'internaute lambda. Est-ce que vous auriez quelques bonnes pratiques à me conseiller pour diminuer ma trace sur Internet sans rentrer dans des détails, donc en restant au niveau pour les nuls? Voilà.
Au niveau pour les nuls, il y a pas de niveau pour les nuls, c'est tout est voilà. Pour moi, une des clés, c'est la décentralisation. C'est par exemple, arrêtez d'utiliser Google pour tout et n'importe quoi. Chez Google, vous allez utiliser le mail, le moteur de recherche, les cartes, les Google Docs, etc. Pour moi, c'est un des enjeux majeurs pour diminuer vos traces. Vous n'allez pas diminuer vos traces, vous allez éparpiller vos traces. Et donc la décentralisation est un enjeu majeur. Pour ça, je vous conseille d'aller tester les alternatives aux outils de Google qui sont notamment développés par Framasoft sur framasoft.org. Framasoft étant une association qui est basée à Lyon, c'est quand même pas mal, et qui vous donnera un petit peu des clés. Ça nécessite de faire ce choix, de se dire, je vais pas tout confier au même opérateur, je vais pas tout confier à la même entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'utiliser des systèmes d'exploitation libres comme Linux. La troisième, malheureusement, il faut quand même le dire, il faut faire aussi un peu attention à ce qu'on fait nous-mêmes. Qu'est-ce que je dis de moi? Qu'est-ce que je fais? Quelles informations je laisse, etc. Ça me semble important. Et après, quand on commence à avoir pris l'habitude de pas d'utiliser des choses qui sont pas les choses, les outils habituels. Par exemple, le jour où vous installez pour la première fois Ubuntu sur votre ordinateur, vous avez un sentiment de toute puissance. Tout d'un coup, vous dites, c'est moi qui maîtrise ma machine. Y compris quand on sait pas... moi, je suis pas du tout une informaticienne, donc voilà. Et vous, une fois que vous avez pris cette confiance-là de dire, c'est moi qui décide de ce que je fais comme mise à jour, c'est moi qui décide de ce que je fais sur mon ordinateur et je ne subis pas le pouvoir de mon ordinateur, et ben petit à petit, tout le monde arrive à prendre la main toujours un petit peu plus loin dans ce qu'on fait. Donc il n'y a pas d'outils pour les nuls et d'outils pour les pas nuls. En fait, il faut sauter le pas, qui n'est pas si difficile que ça et qui l'est de moins en moins. Et une fois qu'on l'a sauté, petit à petit, on va comme ça pouvoir changer à la fois ses outils et ses habitudes. Et moi, aujourd'hui, je suis très contente parce que, par exemple, je n'utilise plus aucun service de Google au quotidien. Et en fait, on se rend compte qu'en 6 mois, on peut avoir une parfaite fluidité et aisance sur Internet. Je suis sur Internet toute la journée et je n'utilise aucun outil de Google. Donc ça se fait sans problème, quoi.
Question complémentaire, est-ce que vous me conseillez d'effacer mes cookies régulièrement ?
Oui, déjà je pense que oui, ça paraît une évidence, mais il faut le rappeler effectivement d'aller bidouiller son ordinateur dans ses paramètres de navigateur Internet pour effacer les cookies. Regardez dans son navigateur. J'ai utilisé un navigateur comme Firefox par exemple qui vous permet d'installer des bloqueurs de publicité, d'installer des bloqueurs de cookies, d'installer plein de choses comme ça, et tout d'un coup Internet devient plus propre et plus respectueux.
Voilà, merci Adrienne et la Quadrature du Net.
Merci.